Un sujet de prière, prier pour la conférence, la préparation, l'organisation, tout ça, ça se met en place, donc c'est bien. Mais on a besoin de, voilà, de la prière du corps de Christ. Et donc... Amen. C'est bien d'avoir toujours à cœur les gens, et les gens ont besoin de Christ. Il y en a, on sait vraiment, mais en fait, même ceux qu'on n'imagine pas, ils ont vraiment besoin de Christ aussi, mais ils ne le savent pas. Juste un petit témoignage et un sujet de prière aussi pour vous. Ça n'enregistre pas encore, là. Si, tu enregistres. Donc, c'est une doctrine appliquée. On est toujours sur le thème de l'identité, qui s'avère, à mon avis, plus qu'essentiel et plus que fondamental. Et donc, en fait, le plus gros problème de l'homme, vous serez tous d'accord avec moi, le problème de l'homme, c'est le péché, n'est-ce pas ? C'est que, et c'est, dans nos sociétés, c'est un mot qui est difficile à entendre, où les gens ne veulent pas, que nous, les gens ne veulent pas entendre. Et donc, on essaye de compenser. Parce qu'on a tous des faiblesses. Alors, il y en a qui sont plus visibles que d'autres. Il y en a, on les voit comme au milieu de, comme le nez au milieu de la figure. Et il y en a d'autres, c'est peut-être plus, mais des besoins, il y en a tous. Dans tous les cœurs. Parce que le péché, il est là, il a fait ses dégâts, il a, voilà. On a tous ce problème-là. Mais personne ne veut, dans nos sociétés, on veut pas le reconnaître. Donc on essaye de compenser toujours, par autre chose, par des qualités, par des talents, par des faire croire que ça va bien, se faire croire qu'on va bien, parce que c'est ça l'objectif, et d'arriver à se dire ben finalement on va pas si mal que ça, on va même plutôt bien, hein. Le péché, oh, c'est pas ça, on le sait, on le fait de temps en temps, mais c'est pas si grave. Donc les choses qu'on fait pas bien, c'est pas si grave, hein. Mais les choses qu'on fait bien, voilà, ça fait qu'on est quelqu'un. On a de la valeur, parce que on a réussi ceci, parce qu'on a fait cela, parce que on a un nom, parce qu'on s'est donné un nom, parce qu'on se construit un nom, parce qu'on garde une façade. Et même dans le monde religieux, hein, les pharisiens gardaient la façade. C'est ça, les pharisiens. C'est, on donne l'apparence. Donc c'est tellement important, hein, toujours ce problème d'identité. Et donc, face à ce gros problème, parce que c'est ce qui met, la Bible dit, hein, c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe qui dit ça en Ésaïe 59, verset 2, qui dit que ce sont nos péchés, nos crimes, hein, qui nous cachent la face de Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. Donc le péché, c'est comme un mur entre Dieu et nous, qui fait que Dieu n'est pas à notre écoute, d'accord ? Et bien qu'il sache tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, hein, Dieu, mais c'est-à-dire que voilà. On peut faire des pieds et des mains, le péché, on est dans un autre monde que celui de Dieu, qui est un Dieu saint. Et la seule solution face au péché, c'est une solution divine. C'est pas la solution de la justice propre. On a vu, ça a conduit au pharisianisme, ça a conduit à être encore plus loin de Dieu. Parce que la justice propre, c'est penser qu'on peut s'approcher de Dieu par nos propres forces, nos propres capacités, nos propres œuvres. Donc c'est tragique parce que en fait c'est de l'orgueil. C'est être le plus loin de Dieu. C'est le plus grand des péchés, d'accord. Et les pharisiens, c'est eux qui ont commis le plus grand des péchés ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit en disant que les miracles que Jésus faisait, c'était au nom de Satan. Et c'est à partir de là que le rejet a été, quelque part, fait par le peuple d'Israël contre le Messie. Et donc, c'est tragique. Alors, la seule solution, en fait, ben c'est la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre solution pour le péché. Elle était déjà manifestée dès le début, hein, quand l'homme a péché, ben, il a fallu un sacrifice. Ils ont été couverts de peaux d'animaux, pas de feuilles de figues, hein, pas de pagne tressée, de peu importe. Non, il a fallu un sacrifice, il a fallu un innocent qui paye pour les péchés. Et évidemment, c'était l'image, après, avec la loi et tous les sacrifices, du seul sacrifice qui ôte vraiment les péchés du monde. Hein, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, et qui a offert une expiation illimitée. On voit ça dans 1 Jean 2, 2, il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier, c'est-à-dire que Jésus-Christ a payé pour tous les péchés de tous les hommes. Est-ce que ça veut dire pour autant que tous les hommes seront sauvés? Non, parce que maintenant qu'il a offert le salut à tous les hommes, il est de la responsabilité de l'homme de l'accepter. Et pour accepter le salut, ben, il faut accepter qu'on est pécheur. D'accord? Et donc imaginez bien, on est malade du cancer. D'accord? Tu es malade du cancer, quelqu'un vient et il prend ton cancer et il l'enlève. Je peux vous dire, pas besoin d'opération, pas besoin de chimio, pas besoin de... Et en fait, c'est exactement ce que Jésus nous propose. Il apprend notre péché, il l'enlève, et il nous offre une nouvelle nature, une nouvelle identité, un nouveau départ, une nouvelle vie. Et je veux dire, c'est pour ça que Paul rappellera ce que David disait dans le psaume 32, au verset en Romains 4, 6, il dit « De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Et là, vous connaissez ce terme « makarios », d'accord ? Et d'ailleurs, c'est « makarios », c'est l'adjectif, et le bonheur, ici, c'est un nom, donc c'est le nom « makarismos », donc c'est la même racine. Il y a une bénédiction. Dieu dit du bien de nous. Maintenant, Dieu peut dire du bien de nous. Pourquoi ? Parce que le péché a été enlevé. Et ça c'est le privilège, nous seuls, des croyants, d'avoir cette nouvelle identité où le péché n'est plus là. Parce que, voilà, le sang de la croix de Christ a effacé et enlevé ce péché. Et c'est pour ça que le psalmiste dira, psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, qui pourrait subsister ?» C'est-à-dire que Dieu a payé le péché, sacrifice illimité, expiation illimitée, et ensuite, il oublie les péchés. Ah, ça, c'est dur. Hein. Parce que nous, on pardonne, mais on n'oublie pas. Les gens disent, oh, moi, peut-être j'arrive à pardonner, mais j'oublie pas. Hein. Mais Dieu pardonne et il oublie. C'est ça la grandeur de son pardon. C'est payer, oublier, effacer à jamais. Voilà ce qu'il a fait de notre péché. Et ça, j'aimerais vous dire que ça, c'est le fondement pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie, pour rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. D'ailleurs, il nous a délivrés de nos péchés, c'est ce qu'il dit en Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et j'aimerais vous dire que nos luttes, souvent, encore et encore, en tant que croyant, c'est que le diable essaie de nous faire croire qu'on est notre péché, qu'on est notre échec, qu'on est notre passé, qu'on est nos erreurs, qu'on subit des conséquences. Et quelquefois, il y a des conséquences au péché. On récolte ce qu'on sème, il y a des disciplines parce qu'on a péché. Et c'est des disciplines toujours, pas pour punir, la punition, Christ l'a prise à notre place, mais pour nous garder dans l'humilité, nous ramener à des bonnes dispositions vis-à-vis de Dieu, d'être docile et d'être à l'écoute. On n'a pas laissé ça la dernière fois. Notre difficulté, c'est qu'on a du mal à écouter ce que Dieu a à nous dire. Mais on va prendre l'exemple d'Ésaïe, si vous voulez tourner avec moi dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe, il était prophète sous 4 rois, la Bible nous dit ça en Ésaïe chapitre 1, le roi Ozias, son fils Jotham, son petit-fils Akaz et son arrière-petit-fils Ézéchias. Ozias a régné assez longtemps, je crois une 50aine d'années, pas dire de bêtises. Je ne cherche pas au bon endroit. C'est le nombre de chroniques. Ozias. Moi, ça, dans 2 Chroniques 26. Donc, il a peut-être pas été au début du règne d'Ozias. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Ozias a été un roi qui s'est appliqué à chercher Dieu, à rechercher Dieu. Et Dieu l'a fait prospérer. Et donc, Ésaïe va commencer son ministère sous ce roi, ce qui était un roi quand même pieux, même si à la fin de sa vie, il a dérapé. Hein, il a tellement prospéré, et ça, c'est le danger quelque part. Et c'est pour ça que vous connaissez cette fameuse histoire de Paul qui demande à Dieu de lui enlever son écharpe dans la chair, et il lui dit « Ma grâce te suffit ». Hein, et il dit qu'il y avait carrément un âge de 100 ans pour le souffleter, pour pas qu'il s'enorgueillisse. Et quelque part, quelquefois, on voudrait, oh, si Dieu pouvait complètement enlever ma vieille nature pécheresse, la vie serait tellement mieux. Mais peut-être que l'orgueil, et c'est ce qui est arrivé à la vie d'Ozias, malheureusement, c'est qu'à la fin de sa vie, il s'est pris pour celui qui n'était pas, et il est allé offrir un sacrifice, alors que c'était réservé simplement à la descendance d'Aaron, hein, aux Lévites, et que, on a essayé de l'empêcher, il a forcé les choses, et il est devenu lépreux. Et il a fini sa vie comme lépreux. Mais c'était quand même à la base quand même plutôt un roi pieux qui a aimé l'Éternel, qui a été utilisé par Dieu, qui a amené des bénédictions. Donc, ce qu'on va lire dans Ésaïe chapitre 6, c'est à la mort du roi Ozias. Son fils Jotham qui le remplace va être aussi il a fils qui était droit aux yeux de l'Éternel. Donc il a été utilisé, il a régné moins longtemps, 16 ans seulement. Et en revanche, Akaz, le petit-fils d'Ozias, le fils de Jotham, lui, il va être, il n'a pas fait ce qui était au verset de Chronique 28. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit des images en métal fondu pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils d'Immon, et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Donc voilà jusqu'où c'est allé. Il a carrément sacrifié ses enfants. Donc c'est grave. Hein, c'est tragique. Alors qu'il avait quand même eu un héritage correct par son grand-père et son père. Et des enseignements, je veux dire. Il a su que son grand-père, il était mort lépreux parce qu'il s'en était peut-être un peu enorgueilli à la fin de sa vie. Mais non. Je veux dire, on n'apprend pas des fois des leçons des autres. Hein. On continue. C'est malheureusement le propre de l'homme. D'être orgueilleux et arrogant. Et donc, il a abandonné l'Éternel. Et donc, Ésaïe va être prophète, lui, pendant ses rois. Et déjà, le peuple, il est dit, d'ailleurs, au chapitre 27, encore sous Jotham, qui était un bon roi, il est marqué ceci. « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Ozias son père. Seulement, il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. » Même s'il y avait un bon roi, et d'ailleurs, quand il y avait un mauvais roi comme Akaz, ça ne veut pas dire que tout le peuple était contre lui. Tout le peuple était avec lui. Tout le peuple péchait, tout le peuple faisait tout et n'importe quoi. Il y avait encore un reste de gens qui étaient restés attachés à l'Éternel. Hein, certainement des sacrificateurs, des lévites, et puis même des gens de chaque tribu qui aimaient vraiment, qui avaient la crainte de Dieu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le prophète Ésaïe. Je voulais replacer un peu le contexte dans lequel il a été prophète, d'accord ? Et il va être prophète aussi pendant la période de la déportation d'Israël, d'accord ? Et donc, il avertit le peuple qui est devenu, au chapitre 5, voilà, ils ont changé le mal en bien. Hein, ils sont enrichis, n'écoutent pas la parole de Dieu, la voix de Dieu, les conseils de Dieu. Ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Ça, c'est la cause de tous les malheurs. Et Dieu avertit par Ésaïe les disciplines, les conséquences des choix de cette nation. Alors, il est déjà un prophète, il a certainement déjà prophétisé des choses. Et pourtant, et ça c'est extraordinaire, et ça doit nous encourager dans notre vie. On connaît le Seigneur, on est né de nouveau, on a été utilisé par le Seigneur est avec nous, mais on a encore des choses à découvrir de Dieu. Des choses à apprendre sur qui est Dieu et sur qui nous sommes en lui. Et c'est ce qui va arriver au prophète Ésaïe. Donc, Ésaïe 6, verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Et donc là, c'est Jérusalem, d'accord ? C'est la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, dans le temple, dans la présence de ce Dieu qui est présent avec son peuple. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées, dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Souvent, la fumée, ça laisse à penser la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la Shekinah de Dieu. On sait à la sortie de l'Égypte, hein, la gloire de Dieu dans le feu, la nuit et la nuit, une sorte de nuée, hein, la fumée, la nuée dans la journée qui les conduisait, donc qui représentait la présence de Dieu. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc là, face à... Vous savez, les gens aujourd'hui, ils n'ont pas conscience de leur nature pécheresse, parce qu'ils se comparent les uns avec les autres. Donc du gris avec du gris, oh, c'est pas si gris que ça, c'est même plutôt un peu mieux que toi, donc... Moi, je suis pas pécheur. Toi, t'es pécheur. Toi, t'es allé en prison. Toi, t'as fait ceci, t'as fait cela. Moi, je suis pas. J'ai pas fait de gros péchés. Ah, des petits péchés, d'accord, mais des gros péchés, j'en ai pas fait. Hein? Oh, quand même. Moi, je suis pas pécheur. J'habite à Marseille, mais je suis pas pécheur. Hein? Et c'est vrai que c'est quand on prend conscience de la sainteté de Dieu, où il n'y a plus une seule imperfection. Tout est lumière, tout est beauté, tout est parfait. Tout est là, c'est la sainteté de Dieu. Et là, le prophète Ésaïe, qui fait partie des gens qui sont les plus pieux du peuple, qui marchent avec Dieu, qui aiment le Seigneur, qui vit des choses avec Dieu, qui est obéissant à Dieu, qui est humble, qui est en communion avec Dieu, ben, lui-même prend conscience de quoi? De son péché. Et il dit, ça y est, voilà. Et c'est pour ça que personne ne pourra rentrer dans la maison et dans la... Vous connaissez cette parabole du Nouveau Testament où il y a quelqu'un qui n'était pas revêtu de la robe de justice et qui était dans le banquet que Dieu préparait. Et il dit, mais comment t'es pu rentrer ici? En fait, personne pourra rentrer. Parce que, même s'il voulait, en fait, par eux-mêmes, ils ne pourraient pas rentrer face à la sainteté de Dieu. Et donc, nous, qui sommes enfants de Dieu, quelquefois, on est conscient qu'on est pécheurs. D'accord? Et donc, Ésaïe prend conscience de ça, prend conscience de la sainteté, de la gloire de Dieu. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Alors pour eux, voilà, on ne peut pas voir Dieu et vivre et survivre. Donc ça y est, il se dit, je vais mourir. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Waouh! Alors, le charbon ardent sur l'autel, ça parle évidemment de l'autel où on offrait les holocaustes, d'accord ? Ça parle évidemment du sacrifice de Christ, de la croix de Jésus-Christ. Et c'est la seule chose qui peut ôter le péché, d'accord ? C'est le sang de Christ, hein, cette expiation illimitée. Et donc, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Mon péché a été payé. Mon péché a été réglé. Mon péché a été effacé. Et Ésaïe va pouvoir rentrer. Et c'est pour nous aussi, dans cette révélation, de comprendre ça. C'est que ça va lui permettre de rentrer vraiment dans l'appel que Dieu a sur lui, qui est pas simple, hein, d'être prophète, d'annoncer un message qui va pas forcément être bien entendu ou bien écouté, mais qu'il faut annoncer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va toucher ses lèvres. C'est que maintenant, il va avoir une autre confession. Dans sa parole, il va avoir d'autres paroles possibles qui vont sortir. Des paroles de foi. Des paroles, maintenant basées sur ce que Dieu a fait. Parce que très souvent, la bataille, c'est que notre confession, elle est basée sur mon expérience, mes émotions, les projections, l'atmosphère, la faiblesse, le péché autour de nous, le péché en moi, le découragement, l'abattement, voilà. Quelle est notre confession? Est-ce qu'on sait s'édifier dans le Seigneur? Est-ce qu'on sait proclamer et s'appuyer plus sur la vérité de Dieu et les promesses de Dieu que sur mon expérience et mes émotions? Et c'est ça la tragédie. C'est que souvent notre confession, ben, elle reste qu'on est pécheur. C'est vrai, mais on n'est plus nos péchés. On n'est plus notre péché. Ça a été expié, ça a été effacé, ça a été enlevé. On est une nouvelle création. Et si on ne prend pas conscience de ça, on ne pourra pas rentrer dans ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que la suite, c'est ce qui nous intéresse, là, il entend la voix. Sa confession, voilà, son péché, et là, maintenant, il entend la voix du Seigneur qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et maintenant, parce que son péché est enlevé, il peut dire autre chose. « Ben non, je suis pas capable. Ah ben non, je peux pas, mais moi, je suis pécheur, mais je suis aussi pourri que ceux avec qui, à qui tu veux que j'aille annoncer le message. » C'est vrai. Mais c'est plus toi, ça. Ça, c'est enlevé, maintenant. Alors, c'est pas pour dire, maintenant, t'es supérieur aux autres et tu vas... Jésus est pas venu en dominant l'homme, il est venu en servant l'homme. Donc, le message de l'Évangile, il est pas pour dominer, contrôler et asservir les gens. Il est là pour servir les gens, pour libérer les captifs. Hein, Jésus est venu pour annoncer une année de grâce, dans Luc chapitre 4. Hein, et pour libérer ceux qui étaient prisonniers. Prisonniers de quoi? Du péché? De la mort, de la culpabilité, de la condamnation, d'une confession qui n'est pas la vérité, qui est une réalité, qui est en accord avec les accusations du diable, mais qui n'est pas ce que Jésus a fait, qui enlève tout ce que Jésus a fait à la croix. D'accord? Quand on confesse qu'on est pécheur, on est en train de dénigrer l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ça suffit pas ce qu'il a fait. Il faudrait le recrucifier, parce que moi, je suis tellement pécheur qu'il faut le recrucifier. Non, pas recrucifier Jésus-Christ. Une fois pour toutes, il a offert sa vie, il a payé, il a effacé les péchés. Donc, ce qui nous intéressait ici, c'est de voir que... Bonjour, bienvenue Maurice, je t'en prie, assieds-toi. Donc... Psaume 103, verset 10 et à 12. « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. » Donc voici la bonne nouvelle, mes amis. On a plus... Beaucoup d'hommes aujourd'hui font ce qu'ils font pour essayer de couvrir leurs péchés, pour essayer de compenser face aux ténèbres qui sont en eux, pour essayer de se donner une valeur et une bonne image d'eux-mêmes. Mais nous, si on sert le Seigneur et si on fait ce qu'on a à faire, c'est pas pour ça. Ça, c'est pas nous qui pouvons effacer nos péchés, c'est pas nous qui pouvons les enlever. C'est le Seigneur qui l'a fait. Nous, maintenant, on est libres. Et parce qu'on est libre, on peut dire « Oui, Seigneur, ben oui, je veux bien y aller. Je veux bien répondre à l'appel de Dieu. » Et si on ne prend pas conscience de cette nouvelle identité, on ne pourra pas rentrer dans l'appel que Dieu a sur nous. Et la clé, ben, c'est de croire effectivement que c'est la vérité, c'est la foi, n'est-ce pas? Notre victoire, c'est 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que c'est simple, c'est instantané. Il n'a pas passé 2 mois maintenant à réfléchir. Oui, bon, d'accord, je vais. Non, il entend la voix de Dieu qui enverrai-je. Moi, j'y vais. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle création, parce que j'ai un nouveau nom, parce que je suis enfant de Dieu, parce que Dieu m'a appelé, parce que Dieu me confie une mission, et parce que je suis capable, par lui, en lui, avec lui, parce que mon péché est ôté, de répondre maintenant. Je suis capable et j'ai envie de ça. La nouvelle nature, elle aspire aux choses de Dieu. La nouvelle nature, elle veut la vie de Dieu, elle veut la présence de Dieu. Elle la désire plus que toute autre chose, donc c'est rapide. C'est pas... Oui, non, mais il faudrait que je paye quand même, que je fasse 1 mois ou 2 pour expier quand même un peu mon péché, dans cette pensée un peu de l'Église catholique et de l'enseignement catholique, hein, où Jésus a expié, mais il faut que nous, on fasse notre part un peu de pénitence, quand même. Non, l'homme ne peut pas payer pour son péché. Enfin, s'il le paye, c'est la mort et la séparation avec Dieu, d'accord? Donc, la clé pour nous, c'est de comprendre et d'accepter et de recevoir et de croire et de confesser, et on va parler de ça, ce que Dieu a fait, ce que Christ nous offre, et que notre vie maintenant, elle est cachée en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est notre identité. Notre identité, c'est Christ. Et... le but, c'est comment découvrir et grandir dans cette nouvelle identité. Alors, je n'ai pas eu le temps de le fabriquer, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre aisément avec moi ce que je vais vous dire. Mais vous savez, vous avez déjà vu un niveau à eau ? Alors, non, imaginez qu'il y a un tuyau qui relie les deux. Là, il n'y a pas de tuyau, hein, mais imaginez qu'elle soit remplie un peu moins aussi. Je n'ai pas voulu gaspiller l'eau, donc je n'ai pas vidé les bouteilles. Mais voilà. L'air, c'est moi. D'accord ? C'est la vanité de qui je suis, de l'orgueil que je pense que je suis quelqu'un. L'eau, c'est Christ, c'est l'eau de la vie, l'eau vive, l'eau éternelle, l'eau qui lave, l'eau qui purifie, l'eau qui donne la vie, l'eau qui... Hein, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Alors, imaginez qu'il y a un tuyau qui relie ces deux bouteilles. Là, évidemment, il y a un qui se passe, mais en fonction, d'accord ? Imaginez que donc l'eau qui est, ce serait la personne de Christ, d'accord, et moi c'est le vide ici, ok. Si je soulève cette bouteille, vous imaginez bien que l'eau elle va remplir ici, d'accord. Et si je fais le contraire, l'eau va se remplir ici, d'accord. Alors quand je m'élève, quand je suis rempli de moi, quand je suis dans mon identité naturelle, dans mes talents, dans l'orgueil de la vie, je suis rempli d'air, d'accord. Mais quand je laisse Christ être élevé, il faut qu'il grandisse. Imaginez, je suis rempli de quoi là maintenant ? Quand j'accepte d'être humble, quand j'accepte d'avoir mon identité, pas dans mes performances, mais en Jésus-Christ et en ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'humilité. Je suis rempli de quoi ? De Christ. Comprenez ? Alors, l'expérience ne marche pas parce que je n'ai pas le niveau en haut, mais vous avez pu imaginer la chose. Donc, quand on est humble, ça va être une des clés de la vie pour vivre cette nouvelle vie, c'est l'humilité. Et l'humilité, ben, c'est de croire Dieu. C'est d'accepter ce que Dieu dit. C'est de s'appuyer sur ce que Dieu dit et pas sur ce que je vois ou sur ce que je ressens. C'est ça la vie par la foi. N'est-ce pas ? Et quand on est rempli de Dieu, la Bible dit en Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » C'est-à-dire quand on accepte maintenant d'être humble, d'être effacé, d'être lavé de ses péchés par Jésus-Christ et de rentrer dans son appel, eh bien on va avoir maintenant des sources d'eau qui viennent pas de elles viennent pas de toi, c'est Christ en toi. D'accord ? C'est Christ en nous. Et la tragédie c'est que c'est Jérémie 2:13, vous connaissez hein, qui dit « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Ça, c'est la tragédie de l'homme, c'est qu'il veut être rempli de lui. C'est l'orgueil, d'accord ? Et quand il est rempli de lui, bah, il est vide de Christ. Alors que lorsqu'il accepte d'être humble et à sa place, et ben là, à ce moment-là, il élève Jésus-Christ, il est rempli de Christ hein, dans sa vie. Et cette eau vive, hein, c'est elle qui satisfait, qui répond aux vrais besoins, qui comble, qui donne une valeur, qui donne un sens. Et c'est des besoins qui sont fondamentaux, qui sont souvent inconscients, subconscients, mais qui guident et qui dirigent la plupart des décisions des hommes. Ou surtout des réactions des hommes, hein, face à des situations ou des circonstances. Dans Jean chapitre 4, verset 10, vous connaissez cette histoire de Jésus qui est avec la femme au puits et qui lui propose de lui donner de l'eau vive. Et il dit au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Voilà ce que Dieu veut nous offrir. Il veut nous offrir l'eau de la vie. L'eau de la parole. Et de manière concrète et pratique, ça veut dire... Si j'accepte humblement de me laisser remplir de la parole de Dieu, d'échanger, c'est ça l'humilité, d'échanger mes pensées vaines pour recevoir les pensées vraies, éternelles de Dieu, ben c'est l'eau de la parole, l'eau vive qui va couler en moi. Je serai le premier bénéficiaire, mais pas que moi. Parce que si je suis rempli, maintenant je peux répondre à l'appel de Dieu. Si je vis dans cette nouvelle, dans ces promesses, dans cette nouvelle vie, je peux répondre à l'appel de Dieu et servir le Seigneur. Parce que moi, je peux dire, oui, je suis petit, moi. Mais Christ est grand, n'est-ce pas ? Je n'ai pas besoin d'être grand, moi. En fait, je suis grand en Jésus-Christ. Vous connaissez ce verset dans Matthieu chapitre 3 et au verset 17, je crois. Matthieu chapitre 3, verset 17. Je vais vous le lire. Il dit ceci. Voici une voix, c'est quand Jésus est baptisé, hein. Voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand on est rempli de Christ, on devient le centre d'affection. Christ en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1:27. Voilà, Jésus en nous, et on devient le centre de l'affection de Dieu. Voilà, la communion, il trouve en nous son plaisir. Il dit, mais oui, je suis toujours pécheur. Oui, mais il y a Christ qui est en toi. Voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire. Hein? Donc, il veut dire, moi je suis limité. Mais lui, il est le Tout-Puissant, n'est-ce pas ? Le Dieu infini. Il va dire, mais moi, je suis incapable d'accomplir ce qu'il me demande. Et pourtant, la parole de Dieu nous fait cette promesse, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Oui, je ne suis pas capable, mais ma capacité, elle ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que moi, j'ai un talent particulier que je peux répondre. Ma capacité, elle vient que je suis rempli de Christ. Je ne peux pas aimer comme Christ aime, mais si je suis rempli de Christ, je peux aimer comme Christ aime. Je ne peux pas pardonner comme Christ pardonne, mais si je suis rempli de Christ, je peux. Comprenez ? Christ en moi. C'est ça, cette nouvelle identité. Et Christ en moi doit grandir. La parole de Dieu en moi. L'eau de la parole qui me lave, qui me purifie, qui me permet d'apprécier la présence de Dieu, la sainteté de Dieu, qui me permet de maintenant voir l'appel de Dieu et le grand plan de Dieu dans lequel... Sinon, je vis dans ma vie étriquée, centrée sur moi, sur mes besoins à court terme. Mais là, je vis déjà dans la vie éternelle. Et je vis dans le grand plan de Dieu. Et je suis utile dans le grand plan de Dieu. Parce que quand je suis centré sur moi, je suis utile que pour moi. D'accord ? Je suis rempli d'air. Je suis rempli de pensées vaines, qui sont peut-être très intelligentes pour l'humanité. Mais voilà, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de consistance, ça n'a rien d'agréable au Seigneur. C'est-à-dire, mais je suis faible. Et c'est vrai qu'on est faible. On est des hommes et des femmes faibles. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc c'est ma force, elle n'est pas en moi, elle est en lui, sa force. En fait, tout est, si je suis rempli de lui, si je vis dans cette nouvelle identité, c'est la victoire. Et chaque fois que nous vivons dans cette nouvelle identité, nous vivons dans la victoire. Et la défaite, c'est quand justement on essaie de reprendre les choses en main, on essaie de tirer la gloire de ce qu'on fait pour nous-mêmes. Voilà, l'orgueil qui reprend le dessus et l'humilité. L'humilité qui fait qu'on ne veut pas rester à notre place, on veut se montrer, on veut, hein, comme le roi Ozias, qui à la fin de sa vie, et voilà, il s'est pris pour ce qu'il n'était pas, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Vous allez dire, mais moi je ne suis pas fiable. Ben oui, mais ça, tout ça c'est notre ancienne nature. Dans la nouvelle nature, ben, il n'abandonne jamais. Donc ce qu'il a commencé, Philippiens 6, il va l'achever. Donc voilà, nous on n'est pas fiable dans la chair, mais en Christ on est fiable. En Christ on peut prendre des responsabilités, en Christ on peut se tenir debout, en Christ on peut, avec Christ on peut opérer les choses. Vous allez me dire encore, mais moi je suis tellement insécure. Le regard des autres, l'approbation des autres, ça me fait tellement peur. Et je vous dirais que Jésus n'a pas essayé de défendre sa personne. Il savait qui il était, il avait une mission à faire, il a accompli sa mission. Et quelque part, il était libre de la crainte de la mort, même s'il savait qu'il y allait, d'accord, et qu'il allait mourir pour nous et prendre notre péché à notre place. Mais nous, on n'a pas besoin d'avoir peur, parce qu'on est accepté, on est dans le bien-aimé. Donc, je dois apprendre à savoir qui je suis et quelle va être ma confession maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche ? Ben, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, ce dont on a besoin, c'est que dans notre cœur, on sert la parole de Dieu. Dans notre cœur, on sert les promesses de Dieu. Dans notre cœur, on se nourrisse. On boive cette eau. On reçoive cette eau de la parole. Et découvrir Jean chapitre 17 et verset 3. Vous connaissez ce verset extraordinaire. La vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître la vie éternelle, cette eau vive, là, c'est de connaître Jésus-Christ. D'accord ? C'est de connaître la parole de Dieu, c'est de connaître le cœur de Dieu, c'est de connaître l'amour de Dieu, c'est de connaître la grâce de Dieu, c'est de connaître la miséricorde de Dieu, c'est de connaître la sainteté de Dieu, c'est de connaître la gloire de Dieu, c'est de connaître la personne de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire qu'en connaissant Jésus-Christ, on apprend à savoir qui on est. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Vous savez, c'est pas nous le deviendrons un jour quand on aura bien réussi, quand on fera tout bien. Non, non, nous le sommes aujourd'hui, maintenant. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, si on n'avait pas bien compris qu'on l'était, mais maintenant, donc pas quand on sera au ciel avec le Seigneur, quand on sera complètement racheté et qu'il n'y aura plus de vieille nature pécheresse. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons, donc il va y avoir. Évidemment, la rédemption, ça sera quand on sera dans des corps glorifiés au ciel. Aujourd'hui, on a encore cette vieille nature pécheresse. Qui nous garde humbles. Humbles pour qu'on continue d'être remplis à notre place, d'être remplis de Christ, et pas de nous-mêmes. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc ça, c'était 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Nous serons semblables à lui. Pas une bonne nouvelle, ça ? Nous serons semblables à lui. Et ça veut dire que si nous sommes déjà enfants de Dieu et que le monde ne voit pas, et que nous, on ne voit pas encore qu'on est semblables à lui, mais c'est ce à quoi il nous a prédestinés, hein, dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Voilà ce que nous sommes. Et voilà ce à quoi Dieu nous appelle dans cette nouvelle identité. Parce que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. L'œuvre est accomplie, les amis. Maintenant, à nous de la découvrir. À nous de marcher dedans. À nous de le croire. À nous de le confesser. À nous de l'expérimenter aussi. Parce que c'est pas juste « Ah oui, c'est des belles phrases, c'est des belles théories ». Mais j'aimerais vous dire que Dieu nous demande de l'expérimenter, de vivre. Alors, on arrivera sur cette terre, on aura toujours cette nature pécheresse. Donc, je ne suis pas en train de dire que travailler dur parce que, voilà, on peut arriver à être comme Christ. Non, non. Mais aimons Jésus-Christ, recevons cette lumière, recevons sa parole, grandissons dans sa parole, obéissons, parce que c'est ce que ça veut dire. Écoutez, pourquoi on a tant de mal à écouter ce que Dieu dit? C'est parce qu'on a une volonté en nous qui ne veut pas se soumettre ni obéir, qui résiste, qui est orgueilleuse. Et ça, c'est la nature du péché, c'est la nature de la folie qui est en nous. Mais la patience de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les bontés de Dieu, les miséricordes de Dieu, la fidélité de Dieu, qui n'abandonne jamais, à travers des fois simplement récolter ce qu'on a semé, qui va nous amener dans l'humilité. Mais merci Seigneur. Je veux dire, ne craignez pas si vous êtes tombé. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes en bas? Qu'est-ce que je fais maintenant une fois que j'ai péché? Je me morfonds tout le reste de ma vie parce que j'ai péché, que j'ai échoué, ou je reçois la grâce de Dieu. Et je confesse ce que Dieu dit et ce que Dieu a fait. Et j'élève le sacrifice de Jésus-Christ, en le recevant, et en acceptant d'être restauré, en acceptant de dire « Ok, Seigneur, je me suis trompé, je me suis entêté, je me suis obstiné, je me suis tout ce que vous voulez. » Mais c'est ça la repentance, c'est revenir sans cesse à Dieu. Hein, et plus tôt on le fait, plus, quelque part, moins on perd de temps et plus on est mûr dans le Seigneur. Parce que tôt ou tard, de toute façon, notre voie, elle arrive dans une impasse. Mais quand on est jeune chrétien, on pense qu'on peut aller plus loin, le plus loin possible. Et quand on a compris que, Seigneur, si tu es pas là, s'il n'y a pas ta vie, s'il n'y a pas ta présence, ça, voilà, on n'est pas intéressé. Alors, quelques minutes pour conclure. La clé, c'est Galates 2:20. Hein, c'est j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, donc on est là, sur cette terre, hein, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est toujours l'amour qui motive. Si on n'est pas motivé par l'amour, la croix devient une folie. Personne n'a envie de renoncer à lui-même, personne n'a envie de mourir à ses projets, à ses désirs, à sa volonté, à ses... Non, non. Mais quand l'amour de Dieu nous saisit, d'accord ? Et l'amour de Dieu, Isaïe en a pris conscience comment ? Ben, par le sacrifice de Jésus-Christ et par la purification de ses péchés. Et quand on comprend qu'on a été lavé de nos péchés et qu'on n'est plus notre péché, on commence à recevoir l'amour de Dieu, l'amour de la croix. Et on se dit, mais c'est là que je veux vivre. C'est dans cette nouvelle nature que je veux vivre. C'est dans les promesses de Dieu. Et je veux apprendre à... Je veux savoir garder... Je veux savoir me garder dans l'amour de Dieu. C'est ce que Jude va dire au verset 21. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous, se garder dans l'amour de Dieu. Et j'aimerais vous dire que ça, c'est le trait de quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. C'est que la vie est faite de haut, de bas, de nos erreurs des autres, des circonstances, voilà, de la vie. Je veux dire, tu tombes malade, tu tombes malade. Personne n'a planifié de tomber malade. Tu attrapes un cancer. Personne planifie d'avoir un cancer. Mais Dieu est là. D'accord ? Et c'est pas « Ah, ben Dieu me punit parce que j'ai tellement fait de bêtises. » Peut-être qu'il y a une discipline de Dieu, mais Dieu t'aime toujours. D'accord ? Alors au lieu de se morfondre sur nous et sur notre passé, sur nos erreurs, recevons l'amour de Dieu et acceptons d'être humiliés pour être remplis de Dieu. Vidons-nous de nous pour que le Christ puisse grandir en nous. Mais tant qu'on est plein de nous, il n'y a pas la possibilité pour Christ de rentrer. Comprenez ? Et c'est pour ça que Dieu permet ces difficultés de la vie, justement qu'on accepte de se vider de nous. De se vider pour que Christ rentre, pour que Christ prenne la place, pour que Christ soit formé en nous. Parce que soit on va croire que Dieu nous aime, et on va le confesser de notre bouche, soit on va se dénigrer. Parce qu'on vit dans la culpabilité. Mais on n'a plus à vivre dans la culpabilité. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas ? Alors, savoir s'édifier dans le Seigneur, se fortifier dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on apprend à connaître son caractère. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un père pour mentir. Dieu n'est pas un chef qui vient pour manipuler, pour dominer, pour contrôler, pour asservir. Il vient pour donner. On a besoin de connaître le cœur de Dieu. Parce que, et c'est ça la grâce. C'est le cœur et la nature de Dieu. Hein. Connaître sa personne, connaître ses promesses. S'appuyer sur ce que Dieu dit, non ma réalité, c'est la foi. Prendre le bouclier de la foi dans Éphésiens chapitre 6 et verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés. Parce que non seulement... Je veux dire, nous-mêmes, on aurait tendance à se dénigrer, mais c'est amplifié parce qu'il y en a un qui va nous pousser à ça. D'accord ? Et qui aura peut-être des éléments vrais, en plus, réels, d'accord ? De notre chair, de notre passé, de nos manquements. Et nous, on a besoin de quoi ? Le bout de la foi. D'accord ? Ok, ça, c'est une réalité. La vérité, c'est ce que Jésus dit. Et moi, je vais être rempli pas de ma réalité, mais de la vérité. D'accord ? Et je veux me nourrir de cette vérité. Et je veux confesser cette vérité. Et je veux me rendre disponible. Dieu, c'est ça l'humilité. Je me rends disponible à Dieu. Et Dieu fait son œuvre, peut faire son œuvre en moi. Il a fait de moi une nouvelle création. Hein ? Pierre 1.3, on a été régénéré. Et verset 23, on a été, dans le même chapitre, on a été régénéré par une semence incorruptible, par la parole vivant. Vous savez quoi ? Se nourrir de cette parole. La parole de Dieu, elle est vivante et permanente. Et c'est ce que nous sommes. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on se nourrit de cette parole, on va pouvoir maintenant expérimenter cette parole, sa puissance, sa liberté. La parole de Dieu nous a franchis. Elle nous a franchis de quoi ? De l'esclavage du péché. C'est que maintenant, je peux voir avec les yeux de Dieu, je peux penser avec la pensée de Dieu, je peux agir avec le cœur de Dieu, parce qu'il est en moi. Parce que je lui ai laissé la place. Parce que c'est plus moi maintenant. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est notre nouvelle identité. Ça, c'est puissant. Parce que si c'est Christ qui vit en moi, j'aimerais vous dire, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter, Christ. Hein. Vous connaissez quelque chose sur la terre qui peut arrêter Christ ? Moi, je peux le limiter si je lui laisse la place. Donc, s'édifier dans le nom de Jésus-Christ, se garder dans l'amour de Dieu, élever Christ, ça c'est la clé, c'est donc l'humilité. La Bible nous dit en Proverbe 18, 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. » C'est le ballon, là, plein d'air. Il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle jusqu'à ce qu'il explose. Ça, c'est avant la ruine. Mais avant qu'il explose, je veux dire, il est grand, il est fort, il est beau, il est tout le monde voudrait être comme lui. D'accord ? Puis quand il a explosé, il y a un ballon d'eau rouge qui explose, et c'est... En plus, il y a toute l'eau qui s'est condensée, la vapeur d'eau dedans, c'est... D'accord ? Mais c'est ce qu'on est. C'est que de l'air. Mais si c'est plein de Christ, ça change tout. D'accord ? C'est pour ça que 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, ne cherchons pas des super-man et des super-woman. Soyons humbles pour accepter, croire, confesser l'amour de Dieu, la vérité, l'œuvre de la croix, la puissance du sang, la liberté à laquelle Dieu nous a appelés, de nous placer sous sa parole, de nous placer... à dire, ok, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Ça, c'est l'humilité. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ok ? Non pas mes pensées, mais tes pensées. C'est tellement facile de confesser nos émotions. D'accord ? C'est tellement facile. Dernier point, rester petit à nos propres yeux. Ça, c'est aussi la marque de l'humilité. Et c'est le problème de tous les hommes, et notamment quand même on commence à être utilisé par Dieu. Dans 1 Samuel 15, 17... Samuel qui parle à Saül, il dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?» Il était petit à ses yeux, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, il faisait des statues à son nom, à sa gloire, à tout ça. Après, il cherchait à préserver sa place. D'accord ? Il cherchait à préserver une image au lieu de vivre cette nouvelle identité qui n'a pas besoin de se défendre, qui n'a pas besoin de se justifier, qui n'a pas besoin, qui a juste à recevoir et à confesser ce que Christ a fait. Est-ce qu'il est ? Voilà. Je voulais juste nous encourager ce soir encore la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. De humblement élever les pensées de Dieu, les promesses de Dieu, et non pas nos pensées, nos raisonnements, nos calculs, nos idées, notre vanité. Ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité qui laisse la place à Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui en est digne, n'est-ce pas ? Voilà. Seigneur, merci.